48 FM.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Tapsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du Tapsi Apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et salut à tous, bienvenue pour la 83e émission de l'Instant Sport. Aujourd'hui, sans Patrick Biancone qui est en vacances, mais avec Laurent Julien qui est de retour. Salut Lolo.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors tu as réussi à casser la malédiction, tu as eu du soleil pendant tes vacances.
En effet, ouais, super soleil en Corse la semaine dernière et ça m'a fait de la peine de revenir ici d'ailleurs.
Et ouais, mais il fait beau, regarde, t'es revenu, il fait non, beau, il fait chaud.
Sans plus quand même.
Sans plus, ouais. Ouais. Allez, lui n'a jamais de vacances, ça lui fait du bien, il n'en a pas besoin. Aurélien Lacaze, salut.
Bonjour à tous, on est toujours fidèle au poste.
Voilà, un bon week-end.
Oui, très bien.
Ok, ouais. Un week-end sportif, un week-end festif, qu'est-ce que tu as fait un peu?
Plutôt festif, hein. Je ne vais pas vous mentir. Ouais.
Bon, très bien. Mais bon, ça va changer cette année vu que tu es nouveau au rôle dans le sport lausérien, on en parlera tout à l'heure. Salut, Julien Gall est là, il est à fond aussi.
Oui, bonjour à toutes et à tous, oui, à fond, comme d'habitude.
Voilà, alors je tiens à dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est en tête du classement des pronostiqueurs suite à cette première journée de pronostics. On entendra la bande tout à l'heure pour savoir qui c'est. En attendant, suspense, en attendant surtout un invité aujourd'hui pour parler du Tour du Gévaudan, c'est Benoît Malaval, le directeur de Lozère Sport Organisation. Benoît, salut.
Bonjour.
Alors, le Tour du Gévaudan qui a lieu ce week-end. Donc, merci d'être avec nous pour l'évoquer dans cet instant sport de ce lundi. Alors, ça commence ce vendredi avec l'accueil des équipes, les contrôles, la réunion des directeurs sportifs.
Le contrôle des vélos,
Le contrôle.
Le contrôle de vélos.
Non, non.
Mais il peut y en avoir tout, pendant les deux jours de compétition.
Ouais. Voilà, commence pas, Laurent. Pas de polémique, s'il te plaît. Donc, présentation de l'épreuve à l'espace événement. Donc, c'est bon, on est sur les starting blocks. On est prêt à partir pour cette nouvelle édition.
Voilà, là j'arrive ce matin, j'étais sur le parcours de la deuxième étape pour faire le fléchage. C'est quelque chose que j'aime faire, donc j'aime aller voir un peu les parcours avant d'envoyer les coureurs sur ces routes-là.
Alors avant de parler des parcours, on va parler un peu des équipes, des joueurs. Alors il y a des coureurs, pardon, il y a 20 équipes sélectionnées et tu as reçu 50 candidatures, une grosse demande cette année pour le Tour du Gévaudan.
Voilà, environ, voilà, toute l'année, il y a des équipes qui contactent les organisateurs pour faire leur programme de course et sur cette catégorie, c'est vrai que on peut recevoir un large panel de coureurs et une cinquantaine d'équipes sont candidates et vu que c'est les organisateurs qui après reçoivent les équipes, bon, on ne peut pas en prendre plus que 20 en termes de budget, en termes de sécurité, en termes d'hébergement. Donc 20, c'est le bon chiffre.
Alors c'est bien parce qu'il y a 10 équipes françaises, 10 équipes étrangères, des jeunes, des coureurs confirmés. C'est vraiment un plateau éclectique cette année.
Voilà, donc c'est vrai que sur ce niveau-là, on peut avoir donc les meilleurs, des coureurs très très bons qui ont fait leur preuve sur les plus belles courses mondiales. Et après, on peut recevoir également des coureurs plus jeunes qui sont dans les réserves des équipes professionnelles. Donc là, il y a Chambéry Cyclisme Formation, c'est la réserve officielle d'AG2R. Tous les coureurs d'AG2R passent dans cette équipe-là, donc ils seront là. Et c'est vrai que c'est des coureurs très jeunes. Il y en a un là, ce week-end, il a gagné le Grand Prix d'Isberg. Il était dans cette équipe il y a 15 jours. Il est passé pro, enfin plus de 15 jours, parce qu'il est pro, il est passé pro le 1er août. Et là, il a gagné déjà sa première course avec les pros. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment une très belle structure.
AG2R, la mondiale Chambéry, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup d'équipes comme ça qui essayent de mettre leurs jeunes en avant pour les intégrer dans leur section professionnelle.
Ouais, en règle générale, toutes les équipes Pro Tour ou Continental professionnelles ont des liens avec des équipes amateurs, donc des équipes amateurs, des équipes de formation. Donc c'est, voilà, Direct Energy, ils ont Vendée U, Donc c'est voilà tous les coureurs Vaucler, Thomas Vaucler, il est passé dans cette équipe Vendée U. Sylvain Chamanel est passé dans cette équipe Vendée U. Et Vendée U, voilà, c'est une très belle équipe qui ont gagné notamment ce week-end la Coupe de France.
D'accord, il y a Cofidis aussi qui sera présente.
Voilà, Cofidis, voilà toutes les équipes. On a Cofidis, Delco, Marseille, donc qui est une équipe qui monte. Direct Energy, Wanty, c'est pareil, Wanty, ils viennent me faire passer leur composition. On a une équipe avec 6 coureurs, dont les 6 coureurs ont fait le Tour de France. Fortuneo, donc voir Fortuneo, Vital Concept, mais c'est pas Vital Concept, j'ai mis ça sur le book, c'est plus Vital Concept. C'est Vital Concept, ça sera une nouvelle équipe de l'année prochaine avec. Et là, c'est Oscaro. Cajarura, c'est une très belle équipe espagnole aussi, qui a brillé sur les routes espagnoles de la Vuelta.
Mmh. Sur les équipes étrangères, on retrouve quelle nationalité cette année?
Après, il y a beaucoup. Là, sur le Tour du Gévaudan, on a beaucoup d'Espagnols. En Espagne, le cyclisme espagnol, c'est 4 équipes professionnelles. Donc, il y a Movistar qui ne vient pas au Tour du Gévaudan, mais on a Cajarural qui est la deuxième équipe espagnole, et Burgos, et surtout une qui va remplacer l'équipe Euskaltel qui est brillée dans les années début 2000. Là. Donc c'est le team Euskadi qui va vraiment monter en pression dans les années à venir. Et donc le cyclisme espagnol, c'est 4 équipes. Et donc nous, on en a 3 de ces 4 équipes espagnoles.
Alors le Tour du Gévaudan, on le sait, les coureurs, quand ils viennent ici, ils sont assez ouverts. On peut aller les voir, on peut aller discuter avec eux. C'est vraiment intéressant de se rendre quand on est spectateur à ce tour pour ça. Quels sont les grands noms qu'on va pouvoir retrouver un peu lors de ce tour, s'il y en a?
Bon, après les grands noms, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait tous les meilleurs coureurs français. On avait Bardet, on avait Pinot, on avait Villermoz. Voilà, donc c'était déjà avec ces 3, on avait...
Oui, il y avait...
Qui avaient été super sympas d'ailleurs avec le public.
Oui, oui, c'est pour ça. Ils sont vraiment dans un esprit convivial lors de...
Voilà, cette année, en termes d'affiches, normalement, bon, on devait avoir Lilian Calmejean, qui est sûrement un des meilleurs coureurs français actuellement, mais il est sélectionné sur le mondial, il ne sera pas là. Sylvain Chavanel, il doit être là, mais il s'est cassé le scaphoïde il y a un mois et demi, donc je ne sais pas exactement s'il doit... Si, pour l'instant, il est toujours dans la composition de l'équipe Direct Energy. Après, on a Maxime
Bouet.
Le Bouet.
Chouchou des Français, là, le meilleur grimpeur, là, je ne me rappelle plus son nom. Il
Warren sera... Barguil.
Voilà, Barguil. Il sera ou pas?
Barguil, non. Barguil, il pourra venir l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il a signé dans Fortuneo Oscaro. Donc, il sera dans cette équipe-là. D'accord. Cette année, il est dans une équipe. Il est toujours dans son équipe. Même
il est
si
un peu
se
puni.
Passe, non, là, ça va mieux. Ça va mieux. La punition est terminée. Donc, ça ne se passe pas très bien. Ça se passait pas très,
c'est
très, très bien.
C'est arrivé à lui. Hein.
C'est vrai, ouais.
C'est les routes d'Espagne, c'est ça qui s'est fait virer.
Ouais, mais après, c'est ça, le vélo, c'est des consignes, on n'écoute pas. Bon, après, voilà, peut-être qu'il a fait une petite erreur, et vu qu'il n'était pas un odeur de sainteté dans son équipe, ils l'ont ramené à la maison, mais le vélo, c'est quand même... Il y a une éthique, une grosse éthique dans le vélo. On a vu notamment sur la Vuelta un coureur de Rodez, Alexandre Géniès, qui, en fin de peloton, s'était un peu accroché à la voiture. L'équipe Sky en avait profité pour faire quelques images. Ouais. Et voilà, l'équipe AG2R a renvoyé les 2 coureurs à la maison. Donc voilà, c'est pour la belle image du cyclisme qui est en train de se redorer. Donc voilà, toutes les petites erreurs comme ça, ça paye cash.
Et c'est comme nous, hein, première erreur de Julien, on le vire.
Hein. Voilà. Oui.
Ouais, pour ça, fais attention. Donc l'an dernier, il n'y a pas eu de tour. Rappelle-nous pourquoi.
L'an dernier, il y a eu plusieurs difficultés. Il y avait le calendrier qui avait été bouleversé, notamment avec les championnats du monde au Qatar. Donc là, nous, on a toujours été en face, le Tour
toujours.
Du monde, en face le championnat du monde. C'est un avantage et un inconvénient, mais bon, je pense que c'est plutôt un avantage. Et donc il n'y a que cette épreuve-là sur le calendrier. Donc ça permet d'avoir les coureurs qui font pas le mondial, notamment en raison du parcours, voilà, suivant comment, si le parcours est tout plat, donc ils viennent sur le Tour du Gévaudan. Mais là, sur le Tour du Qatar, vu que sur le championnat du monde au Qatar, ils ont décalé le Tour du Qatar 15 jours après en raison des températures. Et donc nous, on a reçu toutes les épreuves italiennes, belges, donc on avait une concurrence énorme sur notre date là. Donc on a essayé d'éviter ça, mais bon, après c'est pour ça qu'on l'a mis au mois d'août, et au mois d'août ça a été encore pire, parce que les équipes, elles sortent du tour, et puis c'est pas facile d'enchaîner derrière, et puis surtout il y avait une interdiction, c'était un week-end noir, donc c'était pas possible d'utiliser les routes nationales, donc on a préféré pas prendre de risques et pas l'organiser.
Alors, c'est un parcours qu'on pourrait qualifier d'habituel, hein, pas de grands changements, si ce n'est que sa part de Mende, hein, c'est ça, c'était Marvejol il y a deux ans. Une première étape entre Mende et Florac, longue de 138 km et relevée de 3 cols de 5 à 6 %. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette étape ? Donc, ça part de Mende, les coureurs vont où après ?
Donc ça part de Mende, ils montent rapidement donc le col du Choisal pour descendre après sur les gorges du Tarn. Donc là il y a 40 km de répit. Après le final c'est assez explosif avec trois cols Cévenol, donc trois cols
Cévenol. Le Choisal, il faut déjà se le farcir.
Ouais, mais le Choisal.
Moi j'ai eu
ça sera un plaisir pour la plupart des coureurs. D'accord. Ça sera en plus c'est un début de course donc ça va aller relativement à basse allure donc ça se passera sans souci pour tous les coureurs.
Et alors les deux autres cols c'est quoi?
Donc ils enchaînent rapidement sur le col du Sapé en dessus du pont de Montvert, donc ça c'est un col qui fait 7-8 km qui est assez pentu. Après, il y a une descente assez technique sur le pont de Montvert et un retour sur Florac. Donc, ça va aller très, très vite. Ensuite, donc, le deuxième col, c'est le col de la Solperrière en dessus Vébron. Après, ils arrivent sur la corniche des Cévennes. Donc, déjà, ça va faire un peu de dégâts. Après, il y a une descente hyper rapide où ils peuvent prendre du 90-95 à l'heure sur la corniche des Cévennes. Après, ils arrivent dans Florac, et dans Florac, là, c'est bon, on les lâche, et il y a le final dans le col de la Pierre à Plate en dessus Florac. Donc, c'est trois beaux cols, et en règle générale, vu que l'étape est courte, ça se joue dans ce col, parce qu'il n'y a pas trop d'échappés en règle générale qui arrivent à se dessiner avant le final. Et comme, il y a deux ans, on avait eu une belle bagarre entre Bardet, Vaucleur, Pinot, Vuillermoz, Jeannesson, qui sera autour du Gévaudan. Lui aussi, Jeannesson, il a été meilleur jeune sur le Tour de France il y a quelques années. Et donc, il est dans l'équipe Fortuneo. Donc, ils avaient fait une belle bagarre. Et bon, l'an dernier, il y a deux ans, c'était Pinot qui avait battu Thomas Vaucleur sur ce final.
On passe au dimanche. Alors, le dimanche, 146 km, donc un peu plus, mais bon, c'est équivalent. Au départ de Mende, en passant par Bagnols, avec un retour sur le Val d'Aunès, c'est ça ?
Voilà, donc sur cette étape-là, on a essayé de favoriser le spectacle pour les coureurs, mais aussi le spectacle pour les spectateurs, avec quatre passages, donc le départ à Mende, trois passages à Mende, et l'arrivée finale sur les boulevards. Donc c'est pour que les gens, quand ils viennent au départ, ils restent pour toute la course. Donc c'est vrai que c'est assez explosif pour les coureurs avec les deux montées Jalabert. Après, c'est vrai que la montée du col de la Loubière en dessus Bagnols-les-Bains, elle n'est pas très très dure. Elle va se monter pour les spécialistes. Gros plateau, donc il n'y a pas de souci. C'est un col qui se monte à 32 km/h. Ça.
D'accord. Donc pour le dimanche, pas de souci pour aller voir les coureurs. On voit à peu près les emplacements pour bien voir.
En fait, ils montent de Bagnols au Masseguin.
C'est ça. Et ils descendent sur la Lujol. C'est pour ça que le col est beaucoup plus facile
moins long.
De ce côté.
Ouais.
Moins long et plus facile.
D'accord.
Le samedi, on se place où pour les voir, les coureurs ?
Après, on peut aller... c'est pareil, il y a deux passages dans Florac, mais bon, on peut aller sur le premier col, et puis sur le premier col, le col de la Solperrière, le col du Sapé, plutôt. Et après, on peut aller se rendre directement sur l'arrivée. Donc, on peut les voir deux fois, même trois fois.
Au niveau des routes, c'est faisable, en fait.
On peut les voir au départ, d'accord. Et puis on peut les voir sur le premier col et sur l'arrivée.
Alors le col du Sapé, c'est où en fait ? Moi, je vois pas. Quand tu es à Florac, tu pars vers où ?
On part donc direction à l'est, là, sur la 106. Et c'est juste après, donc après la Salle Prunée, 4-5 km après la Salle Prunée, il y a une route
à gauche. D'accord.
Une route à gauche qui monte sur le col du Sapé. Et ensuite, donc, c'est direction la Grand-Ville, les Chazes, le col du Sapé. Et après, la descente sur le pont de Montvert.
Quels sont les maillots, rappelle-nous un peu, qui sont à gagner sur ce tour ?
Voilà, donc les maillots, c'est les maillots donc, du classement général. C'est le maillot traditionnel. Donc nous, on est en Occitanie, donc ce n'est pas un maillot jaune, mais un maillot sang et or. Après, il y a le maillot du meilleur grimpeur. C'est vrai que le maillot du meilleur grimpeur, c'est quand même un Lozère. Souvent, le meilleur grimpeur n'est pas loin d'être le premier au classement général. Ensuite, le classement par points. Donc, il y a deux classements par points. C'est un peu les sprinteurs. Mais bon, les sprinteurs, ici, en Lozère, ce n'est pas trop leur place. Donc il y a le classement par points. Ensuite, un maillot assez important, donc c'est le meilleur jeune qui, où il y a 50 coureurs, qui, c'est les coureurs de moins de 25 ans. Et ensuite, cette année, le retour des coureurs amateurs. Donc c'est un maillot qui récompense les équipes de division nationale 1.
Tu disais tout à l'heure que le Tour des Gévaudan était classé dans une catégorie. Tu peux nous expliquer un petit peu dans quelle catégorie il est et qu'est-ce que ça rapporte pour les coureurs ? Est-ce que ça rapporte des points pour un championnat particulier ou des choses comme ça ?
Voilà, au niveau donc, de l'Union Cycliste, il est sur un calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Plus haut, l'Union Cycliste Internationale a trois calendriers, enfin deux calendriers même, mais trois divisions. Donc un calendrier Pro Tour, donc c'est les épreuves Pro Tour un peu légendaires, Tour de France, Tour d'Espagne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. Donc voilà, ça c'est hyper compliqué de rentrer dans ce gotha-là d'un point de vue historique, mais d'un point de vue financier aussi. Donc ça, c'est les épreuves. Il n'y a que les épreuves genre d'un under en Australie qui y sont rentrées. Ensuite, c'est des circuits continentaux. Donc on a les circuits sur cinq continents. Nous, on est sur un col sur le continent européen. Donc sur le continent européen, on a deux niveaux. On a les épreuves 2.1 où on était il y a l'an dernier. On était en 2.1. Et là, c'est pour ça qu'on avait pu recevoir toutes les équipes professionnelles. On pouvait recevoir n'importe quelle équipe professionnelle, que ce soit les Espagnols de Movistar ou n'importe lesquels.
Sky.
Les Sky. Voilà, Sky, ils avaient failli venir. Bon, parce qu'il y a un directeur sportif qui habite à Midi-Pyrénées, qui connaît bien le Tour du Gévaudan. Ils n'étaient pas loin de venir. Après, ça ne s'est pas fait. Et après, il y a une deuxième catégorie, c'est les 2.2. Donc les 2.2 sur les catégories 2.2, on ne peut pas recevoir les équipes Pro Tour, mais on peut recevoir les équipes nationales françaises. Donc, c'est la seule différence. Bon, après, la différence est budgétaire aussi. Mais ces deux catégories 2.1 et 2.2, elles rapportent des points aux coureurs européens, même hors européens. Et donc, il y a ce classement qui sort en fin d'année. Donc, c'est un classement Europe Tour, ça s'appelle.
Et dis-moi, qui c'est qui décide si on est 2.1 ou 2.2 le Tour du Gévaudan ?
Bon, après, on était monté en 2.1 parce que voilà, on a été resté sur ce calendrier UCI 2.2 pendant quelques années. Donc, on avait réussi à monter en 2.1 pendant deux années. Et après, c'est vrai que cette année, vu qu'on n'avait pas organisé, on est reparti en 2.2 et après, on peut remonter en 2.1. Mais après, la différence est importante en termes financiers, mais la différence est moins importante aussi. Bon, après, on arrive à recevoir les équipes Pro Tour, c'est toujours intéressant. Mais c'est la seule différence, c'est ça. C'est 15 000 euros et on peut recevoir les équipes Pro Tour.
Ok, on est arrivé facilement à boucler le budget cette année ou pas ? On a eu beaucoup de sponsoring, de partenariats ?
Après, on arrive à boucler le budget à ce niveau-là. Après, c'est vrai que les 15 000 euros manquants pour la catégorie supérieure, c'est toujours difficile, hein, parce que nous, on est à un budget de 5 000 euros. Il y a des tours du Poitou-Charentes, des tours du Limousin, ils sont à 500 000 euros de budget. Donc, c'est vrai qu'on est dans des concurrences un peu plus. Nous, ici, on est dans la simplification maximale, donc, alors que dans des autres épreuves, C'est différent. Nous, les équipes qui viennent autour du Gévaudan, on paye très très peu de frais de déplacement. Voilà, donc voilà, on arrive à négocier partout, mais bon, c'est toujours compliqué quand même.
C'est ça qui coûte le plus cher en fait dans le budget ?
Non, bah après la charge financière la plus lourde, c'est sûrement la sécurité. Avec nous, on a une vingtaine de motards civils qui sont là, bon, qu'il faut héberger. Et qui ont des fréments. Et après, on a surtout aussi la gendarmerie. Donc, on a 50 gendarmes sur les étapes, sur des postes fixes, et une dizaine de gendarmes à moto. Donc, ça, c'est un coût important. Hein. Donc, il y a ça. Après, il y a la grille des prix. La grille des prix, on a 15 000 euros de grille des prix pour les coureurs. Après, il y a l'hébergement. Donc, on héberge les coureurs. Et en termes de frais de déplacement, on arrive à minimiser les frais de déplacement. Mais normalement, par exemple, une équipe... que ce soit FDJ, Direct Energy, Cofidis, toutes les équipes, voilà, les 7-8 équipes françaises qui participent au calendrier mondial, on est à 2400 euros de frais de déplacement pour déplacer une équipe. Bon, après, nous, on arrive à... Enfin, voilà, Depuis 10 ans, certains viennent, donc on a toujours essayé de négocier ces tarifs-là et on est loin de ces tarifs-là.
Ok. En tout cas, il faut le préciser, hein, c'est un formidable booster pour l'économie lausérienne sur ce week-end donné. Ils arrivent à combien de personnes un peu ? Cette organisation, ça ramène combien de gens sur le territoire, sur le bassin mandois, voire plus ?
Après, une équipe, on a 20 équipes et une équipe, c'est entre bon, il y a 6 coureurs, mais en règle générale, il y a 6-7 encadrants. Donc, on est à 12 personnes par équipe, donc par multiplié par 20, donc ça fait 250 personnes rien que pour les équipes. Et ensuite, pour l'organisation, c'est une centaine de personnes qui viennent d'ailleurs qu'on héberge aussi pour l'organisation. Et puis, il y a un peu de télé, un peu de communication, un peu de médias, un peu voilà, donc c'est tout ça rajouté, ça fait en gros 400 personnes dans les hôtels lausériens.
Tu parlais de la télé, il y avait une année, je crois qu'il y avait eu Eurosport qui était venu. Ça se fait toujours ça ou...
Voilà, donc il y a 2 ans, on avait eu un reportage sur Eurosport là de 27 minutes. A priori, donc après, on aura les caméras, le caméraman d'Eurosport qui viendra. Après, il faut qu'il trouve la grille sur Eurosport pour la placer. Donc, pour l'instant, on n'a rien de sûr par rapport à ça. Donc, on aura France 3 TV ici, avec l'agence de Mende qui sera présente. Mais en termes d'image, rien n'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a des sites Internet. On a un site Internet là, qui s'appelle Direct Vélo. Et c'est vrai que c'est un gros site dans le vélo. Ils ont débuté il y a 10 ans sur le Tour du Gévaudan, un peu en bricolant. Et là, c'est vrai que maintenant, c'est devenu quand même beaucoup d'internautes suivent le vélo via ce site Internet. Et c'est un site Internet qui a 7-8 000 connexions en direct sur les épreuves. Et sur le Tour du Gévaudan, on est à peu près 7-8 000 personnes qui regardent leur PC ou leur smartphone et qui regardent leur direct de l'épreuve.
Oui, Internet, ça marche de plus en plus, de mieux en mieux. Quand c'est bien fait, ça partage. Ça, ouais. Pour finir, avec toi, Benoît, peut-être un mot sur le Tour de France qui devrait revenir cet été à Mende. Bonne nouvelle.
Oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'économie mandoise, pour l'économie lausérienne, pour l'image aussi. Il y a beaucoup de communication. Le Tour de France, c'est que de la communication.
Parce que oui.
Sur les 5 000 personnes qui suivent le Tour de France, je ne pense pas qu'il y en a 5 000 qui regardent, qui voient des coureurs pendant leurs 3 semaines de Tour de France. Il y en a très peu qui sont au contact des coureurs. Et c'est surtout des médias, c'est surtout des partenaires. Donc, c'est surtout ça. Le Tour de France, c'est un événement sportif, mais c'est surtout un événement mondial, un événement de communication. Donc, c'est pour une collectivité, c'est toujours intéressant.
Ok, merci beaucoup, Benoît. On rappelle le Tour du Gévaudan. C'est la combien d'éditions ?
Je sais que c'est
30e, ouais, en 1973, hein, ouais, ça s'est monté. Hein.
C'est ça.
Et en 2017, c'est fou ça.
Mais en plus, les coureurs qui viennent ce week-end viennent aussi repérer la montée Jalabert, du coup, puisqu'ils vont se la taper cet été.
Et oui.
Donc c'est intéressant aussi pour ces jeunes coureurs. Là.
Ils pourront dire non, on se l'est monté 2 fois autour du Gévaudan, ça va quoi.
Ouais, exactement. Et après, il faudra qu'ils repèrent peut-être aussi la descente, parce que peut-être qu'ils vont monter la descente.
Une belle info. Là. Allez, petit scoop, on n'en dit pas plus. Merci Benoît, vendredi.
Je l'avais déjà fait à l'époque, le Tour de France, je l'avais vu.
Midi libre, c'était.
Là, c'était le midi libre.
Avec une victoire de Luc Leblanc à Marvejols.
D'accord. Et j'ai souvenir d'un coureur qui était français très connu, c'était Thierry Marie, qui n'arrivait pas à monter. Qui n'arrivait pas à monter la descente du Tour Jalabert. C'était impressionnant parce qu'il avait les pneus collés au sol. Fallait le pousser, quoi. Peut-être là, maintenant, on peut le dire. On l'avait aidé à monter, quoi.
Ah, ben,
à cette époque-là, c'était autorisé, je crois.
Ouais.
C'était
moins filmé.
Oui, voilà, ouais. C'était ça. Là, il n'y avait personne.
Et d'ailleurs, tu dis qu'il y a les championnats du monde ce week-end aussi. T'as un petit pronostic ? Est-ce que tu crois qu'il y a un Français qui va décrocher le maillot arc-en-ciel ?
Après, sur des parcours comme cette année sur le championnat du monde, on a quand même Alaphilippe qui est là et qui ne sera pas loin, je pense. Soit ça sera Alaphilippe, soit Sagan, mais Alaphilippe, c'est quand même un coureur exceptionnel. Il revient, il est assez frais, il a été blessé une grande partie de la saison. Mais voilà, c'est c'est, je pense, une grande chance pour l'équipe de France de ramener ce maillot arc-en-ciel avec lui. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de chance, je pense, de ramener un maillot de champion du monde.
Allez, on le regardera, mais après le tour du Gévaudan, on regardera en replay les championnats du monde. Allez, vendredi, vous pouvez aller vers l'espace événement. Il y a plein d'animations pour la journée de vendredi et donc samedi et dimanche course. Tu nous donnes le site internet pour retrouver toutes les informations? Bon, si tu l'as en tête.
Site internet, mais c'est surtout sur les pages, la page Facebook du Tour du Gévaudan où on a tous les horaires, on a toutes les équipes, la composition des équipes. Et puis jeudi, dans la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone, justement.
Il sera de retour.
Même s'il est en congé, il a préparé quelque
chose. Il a préparé,
chose.
Ouais, on n'en doute pas. Ok, merci. Ouais, vous tapez Tour du Gévaudan, vous le retrouverez de suite sur Facebook, bien sûr. Merci Benoît, on te laisse y aller parce que j'imagine qu'on est à quelques jours du Tour, il y a encore des choses à faire.
Ouais, un peu.
Ouais. Allez messieurs, on poursuit nous, on va parler de volley, tiens, avec la réserve du MVL qui jouait contre Saint-Gilles-du-Fesque, premier match de championnat pré-national. Première victoire plutôt facile contre Saint-Gilles, 3-7 à 0, 25-10, 25-18, 25-19. Alors avec un nouveau coach qui est aussi entraîneur-joueur, Sofiane Kaddour, ça a l'air de bien se passer, Julien.
Oui, bah, pour cette première journée, alors Saint-Gilles-du-Fesque c'était pas la plus grosse équipe de ce championnat, mais au niveau de cette réserve du MVL, donc Sofiane Kaddour, comme tu l'as dit, qui est passé donc entraîneur-joueur. Il y a aussi Jonathan Fadier, qui était l'an dernier en équipe 1 et qui cette année a basculé en équipe réserve. Un petit peu d'expérience aussi avec Corentin Bousquet, qui joue dans cette équipe.
Et, qui a repris le volleyball.
Et donc quelques jeunes aussi pour compléter cet effectif. Donc pour l'instant, un bon mélange d'anciens entre guillemets, et de plus jeunes pour cette équipe qui, je pense, a pour objectif de monter en N3.
Voilà, après une saison plutôt compliquée l'an prochain, ça repart bien sur les chapeaux de roue. Ouais. L'équipe élite finit ses matchs amicaux. Cette semaine, un match de préparation convenu en 4-7 par les deux coachs contre Avignon. Le MVL fait 2-7 partout. Alors, une histoire de ballon, j'ai vu, Julien, ouais, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match?
Ben, tout simplement, en niveau professionnel, donc Ligue A, Ligue B, qui sera le niveau d'Avignon l'année prochaine, et le niveau... un petit peu plus amateur, élite et tout ça, ce ne sont pas les mêmes ballons. Donc quand on a joué avec les ballons professionnels, Avignon a gagné ses 2-7. Et quand on a joué avec les ballons amateurs, Mende a gagné ses 2-7. Et apparemment, c'était notamment flagrant sur les services de Mende, où le réceptionneur avignonnais était complètement en difficulté. Il n'a pas réussi à ramener un ballon.
Alors,
ce qui est assez surprenant puisqu'Avignon était en élite l'an dernier, donc je ne sais pas si c'était une recrue ou quoi, mais voilà, beaucoup de difficultés pour l'équipe avignonnaise quand on a joué avec les ballons qui seront les ballons mandois cette année.
Donc c'est la première fois qu'il y a un match nul au volleyball.
Ouais, c'était un match qui était convenu en 4-7 quoi qu'il arrive. C'est ça. Que même s'il y avait eu par exemple 3-0, on aurait quand même joué un quatrième set.
Non, mais c'est bien, un match nul contre une équipe pro de deuxième division.
D'ailleurs,
c'est bien.
Demain, c'est courage, hein. Demain, Mende continue sa préparation en allant jouer contre Narbonne, qui joue en Ligue B. Qui joue en Ligue B et qui va avoir pour ambition de remonter en Ligue A, qui va être l'un des favoris de cette division de Ligue B avec Cannes notamment. Donc un match intéressant à 5 jours de la reprise du championnat.
Non, j'ai pas entendu, j'avais le casque. Non, tu avais une blague là, il me semble. Non,
non, non, on va passer.
Allez, on passe. Ok, merci.
En tout cas, ça avait l'air drôle, parce qu'il rigole tout seul.
Et juste pour compléter, donc première journée du MVL, donc à domicile, samedi 20h30 au gymnase Piancourt, contre Grenoble. Pareil, cette équipe de Grenoble qui s'est bien préparée, puisqu'elle a notamment battu l'équipe de Lyon, qui évolue en Ligue B, aussi pendant ses matchs de préparation. Donc même s'il y a des écarts au niveau de la préparation, parce que Ligue A, Ligue B reprennent un peu plus tard. Mais voilà, cette équipe de Grenoble compétitive aussi, et ça rejoint un petit peu ce que j'annonçais la semaine dernière sur le fait que beaucoup d'équipes vont être difficiles à battre cette année en élite.
Allez, super, merci. Avant de passer au hand avec Laurent, on va faire une petite pause musicale. C'est parti. Up in the
guaranteed to give you what you need. One blood, everybody like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide rockers make the world stand lead. Yo, really make we roll some weed. Man charge me and now I must proceed. Yo, we about to make moves.
Allez, de retour dans l'émission, on va parler de handball avec Laurent. Première journée de championnat, première victoire pour le Mende Gévaudan Club Handball, 36-31 à la Vernette contre l'Oriole, devant près de 600 personnes surchauffées. Allez, parle-nous de ce match un peu, comment ça s'est déroulé?
Ben voilà, super match. On voit que toute l'équipe a bien bossé cet été avec le nouveau coach. Et on le sent, c'est très discipliné et très encourageant pour vivre une belle saison. En tout cas, alors du coup, c'est vrai qu'avec des nouvelles recrues, on avait parlé il y a 15 jours de ce fameux Roumain, Ravzan Letu. Ben, hier, il fait 11 sur 13. Donc,
c'est énorme.
Énorme, très impressionnant. Je crois qu'il marque les 5 premiers buts de l'équipe.
Rappelle-nous son poste.
Il est demi-centre.
Demi-centre, d'accord. Ouais.
Et vraiment, il a une très bonne santé. Ça fait plaisir à voir tout cet effectif-là. On s'est régalé avec un super gardien aussi qui fait une très grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a un petit peu faibli, mais il a été remplacé par Gaëtan Roche, là, notre poète gardien, là, qui a bien assuré aussi.
Trois arrêts, Gaëtan Roche et ouais. Dragici, 11 arrêts. 11 arrêts, c'est bien quand même, hein, même
oui,
s'il n'a pas été présent
en seconde
mi-temps.
Sur la première mi-temps. Sur 40 minutes, je vais dire.
Ce qui nous permet d'avoir 19-16 pour nous à la mi-temps.
Ouais, voilà, donc 3 points d'avance et puis 3 buts d'avance. Et rapidement, je crois qu'au bout de 2 minutes en deuxième période, eh bien, on ne les avait plus. Très mauvaise entame, mais que sur 1 ou 2 minutes. Ça a pas paniqué dans l'équipe. Le coach a pris un temps mort et puis c'est revenu que l'équipe a bien géré cette deuxième mi-temps. Et voilà, donc une belle opération contre une équipe de Loriol qui avait annoncé vouloir être quand même très bien placée dans ce championnat. Et bien, on en a fait du pâté quoi, de cette équipe de Loriol.
Ils sont très bien placés derrière nous.
Ben, peut-être.
Hein,
peut-être.
C'est bien. Second, ils peuvent être barragistes.
Hein. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais...
Non, mais c'est vrai que sur les matchs amicaux, bon la Coupe de France, enfin, ils sont dans une superbe dynamique. Julien, dis-moi.
Oui, sur le match de samedi, surtout ce qui a été impressionnant dès cette première journée de championnat, c'est surtout au niveau des automatismes. J'ai trouvé une équipe qui se trouvait vraiment bien, assez bien huilée, notamment sur le 6 majeur. Il y a un 6 majeur là, un peu qui a l'air de se dégager. Et c'est à ce moment-là que l'équipe a fait la diff. Alors des fois, le coach Perrin faisait un peu tourner l'effectif, hein, forcément, notamment en défense, quand notre cher ami Olivier Cavalier est toujours aussi difficile à passer, rentrer, il faisait du bien dans les impacts. Mais quand il a fait un peu tourner, c'est à ce moment-là surtout que Loriol a pu revenir au score. Donc voilà, il y a ce 6 majeur, 6-7 qui sont assez impressionnants. Et après, je pense que ben voilà, les autres vont devoir se mettre au niveau. Mais la dynamique entre les matchs de prépa et cette première journée de championnat est assez encourageante avant d'aller jouer à Cournon la semaine prochaine.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce 6 majeur parce que quand il n'y avait pas Erwan, par exemple, je pense à Erwan Pot qui est quand même, il me semble, le
4 sur 5.
L'ailier gauche titulaire qui a été remplacé par le petit Dodé ou même par Omar Baradji, très grand joueur longiligne.
4 sur 7, Baradji.
Ouais, ben l'équipe a quand même très bien tourné et moi je trouve qu'il y a vraiment tous les postes sont doublés. Alors, hormis peut-être le poste d'ailier droit, puisque notre ami Kevin Chagnard, qui fait un très beau 7 sur 10 d'ailleurs, peut pas jouer tout le match non plus. Après, il y a un petit peu Maxime qui y va, mais Maxime est plus intéressant sur un poste d'arrière droit. Maxime André, qui a fait une très belle partie aussi, Maxime. 4 sur 6, et puis sa rage sur le terrain est très intéressante aussi, quand il n'en abuse pas, évidemment. Petit message. Mais je pense qu'il manque quand même encore un ailier droit pour venir compléter le poste de Kevin Chagnard.
C'est compliqué.
Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Julien, même s'il y a un 6 de départ intéressant. Il y a Mireille Cataline qui pèse énormément sur les défenses. Alors, ça ne s'est pas concrétisé au niveau des buts.
Non, mais défensivement,
Il ne fait que 1 sur 4, mais je peux vous garantir qu'il en a secoué plusieurs. Il en avait 3 sur lui chaque fois. C'est sûr que ben, quand ils sont sur lui, ils ne sont pas sur quelqu'un d'autre. Donc, très
belle analyse, Laurent.
Ouais, c'est l'analyse à la Johnny.
Ouais, c'est ça. Johnny. Sors de ce corps, Johnny.
Et non, mais c'est tellement vrai. Et puis, Mireille, quand il n'est pas là, il y a Olivier Cavalier qui a fait une très bonne partie aussi. Donc, j'ai trouvé vraiment un effectif
plus complet que l'année dernière,
bien plus préparé physiquement aussi. Mais bon, il y a encore du boulot, évidemment. Et ça, je suis sûr que le coach en a conscience.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on a l'impression que non seulement il y a des automatismes, mais qu'au niveau physique, la préparation a été intense et réussie. Parce que on voit sur la fin du match, vraiment, ils font l'écart vraiment sur la toute fin de match, et sur les dernières minutes. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est aussi intéressant de pouvoir faire des fins de rencontre tambour battant, surtout quand c'est un petit peu serré comme ça. Donc, ça va être bonheur pour la suite, je pense.
La séance du mardi sur la piste d'athlée au Cosdoge paye.
Ouais, ouais, c'est ça.
Info sur la Coupe de France, le tirage du deuxième tour de Coupe de France, Auré. On est tombé contre qui?
Eh bien, on est tombé contre un gros morceau pour le Mange et Vaudan Club, puisqu'on va recevoir Montélimar, qui est une équipe fraîchement reléguée de National 1 à National 2. Et donc, qui a pour ambition de remonter directement dès cette saison. Donc, ça va être un gros morceau à la Vernède. Donc, ça sera le samedi 30 septembre à 20h45.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Et on pourra compter encore sur le fameux COP des Loups Jaunes qui ont fait un magnifique tifo, j'ai vu sur les réseaux sociaux.
J'ai vu des belles images.
Dans les tribunes, bon, bien sûr orchestrées par ce club de supporters qui vient de se créer, mais pas que, toute la salle y a mis du sien, c'était chouette, vraiment chouette.
Les féminines, alors la réserve, si quelqu'un peut nous envoyer un message, on n'a pas réussi à trouver le résultat de la réserve. Les féminines, par contre, ont perdu le rang.
Ouais, les féminines jouaient hier à 14h à Aramont, en ouverture de l'équipe réserve, donc je ne sais pas le résultat, mais les féminines ont perdu 18 à 23, donc très peu de buts encaissés, mais malheureusement encore moins marqués. Et voilà, donc juste sur ce match, je veux laisser un petit coucou à Marie qui s'est blessée, qui s'est cassé le pied à 20 secondes de la fin.
Ah, purée.
Et voilà, c'est dommage. Donc bon rétablissement à Marie.
Ok. Le handball Nord-Lozère, premier match pour les féminines aussi dans ce championnat pré-national qui s'annonce très relevé avec un derby contre Saint-Flour, une victoire des handballeuses du Nord-Lozère 24 à 23. Samedi prochain, déplacement à Chamalières pour ces féminines qu'on suit bien sûr dans cette émission. Allez, on passe au foot.
Et à noter que ces féminines qui montent de division, c'est la deuxième fois d'affilée et qui jouent au niveau pré-national. Donc c'est très encourageant, c'est très bien. Et félicitations au coach et au président et bien sûr aux joueuses du club de Nord-Lozère.
Football National 3, l'AFL obtient le match nul sur sa pelouse contre Hague de 2 buts partout. Donc l'AFL qui est revenue 2 fois au score. But d'Almeras à la 23e et d'Andiaï à la 88e. Fadil Gourmaz, c'était pas un joueur pour lui, avec un pénalty repoussé, un très bel arrêt du gardien. Et un coup franc sur le poteau. Donc messieurs, vu la physionomie du match, on peut se dire que c'est un bon résultat, égaliser la 88e.
Ouais, c'est un...
Non, vous n'êtes pas d'accord?
Si, c'est...
Si, bon. C'est un bon résultat, surtout que c'est quand même une équipe de haut de tableau, donc... ouais, moi je pense que c'est un bon résultat, ouais.
Sur le papier, parce que sur la physionomie du match, disons que Agde a fait un match d'une équipe à l'extérieur, quoi, c'est-à-dire à attendre...
J'attends, je fais des contres.
Assez bas, et c'est vrai qu'ils ont procédé par contre, ils ont été ultra efficaces, quoi. C'était à chaque occasion de Agde, c'était la panique dans la défense.
Disons que chaque occasion, ils en ont eu que deux, quoi. Voilà. Ils ont mis deux buts.
Donc, oui, dans le premier, c'est un peu un but gag. Hein. J'ai vu le ballon.
Oui, bah, disons que l'attaquant est plus. A mieux réagi que.
Enfin, il a un contre favorable, ça lui revient dessus.
Deuxième sur coup de pied arrêté, ouais.
Deuxième sur coup de pied arrêté, ouais. Parce qu'on se posait des questions suite à la Coupe de France, ce qui est normal. Mais au final, sur ce championnat, 4 matchs, c'est une défaite et 3 matchs nuls. Donc, c'est pas non plus catastrophique.
Oui, et puis d'autant plus qu'on a joué quand même contre 4 équipes qui sont dans les 6 premières au classement général. Donc, bon, c'est sûr que ça fait râler. On aurait tous préféré une victoire, je pense.
Disons qu'avec des victoires, on va vite remonter.
Oui, voilà. On est
match nul, on garde les points.
Qu'à 3 points du 5e en même temps. Donc, ça fait râler parce qu'on n'a pas gagné, parce que le gardien adverse nous arrête un péno, on fait un poteau. Bon, voilà. Mais surtout, bon, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs n'ont pas baissé les bras. On sait que la semaine dernière, on a pris une fessée cul rouge en Coupe de France contre une équipe largement à notre portée, évidemment. Et donc les joueurs ont bien réagi puisqu'ils n'ont pas perdu déjà pour commencer. Ils ont dominé ce match dans l'ensemble. Et donc voilà, il faut qu'ils continuent à bosser. De toute façon, il n'y a que par là qu'on gagnera des matchs, c'est sûr. Et puis bon, pour revenir sur ce match, c'est quand même une composition new look. J'avais eu le coach la veille qui m'avait prévenu, vu qu'il y a des absences pour des joueurs suspendus, des joueurs qui reviennent de blessures. Ben voilà, il avait mis un joueur qui n'avait jamais joué à ce poste-là, d'arrière droit. C'est une des recrues Fabre,
Jérémy Fabre, ouais.
qui a joué arrière droit, donc il connaissait pas ce poste. Il y avait Johan Robert qui était remonté à un poste qu'il avait connu jusqu'à une paire d'années qu'il joue arrière, il joue en attaque. Donc voilà, il y avait des changements, donc il faut retrouver des automatismes. Et puis bon, voilà, donc ce n'est pas un mauvais résultat.
Et donc ce sont des changements qui sont dus donc à des blessures ou des choses comme ça, ou ça a été une volonté du coach de faire tourner pour faire un électrochoc ou
C'est un peu les deux.
Ou de faire jouer la concurrence.
C'est un peu les deux. On peut citer notamment le poste de gardien de but, puisque c'est Jürgen Giraud qui a été dans les buts et non pas Johan Musi. Peut-être est-ce dû au match de la semaine dernière en Coupe de France. Peut-être pas. Peut-être que c'est un début de saison. On se rappelle tous que l'année dernière, ça avait été un peu la même histoire. Johan Musi s'était bien repris et avait fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Peut-être que ça sera pareil cette année, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il y a des changements qui je pense, viennent suite à ce match de Coupe de France qui a laissé quelques petites traces dans cet effectif.
Ok, le prochain match de l'EFL, c'est contre qui ?
Blagnac, dans deux semaines. Puisque ce week-end,
c'est un déplacement, je crois.
Oui, à Blagnac. Ouais. Ce week-end, il n'y a rien puisque c'est tour de coupe.
C'est tour de coupe,
donc, ouais. Il n'y a plus de coupe.
Non.
Donc à Blagnac, et prochaine réception, il va falloir attendre un peu puisque c'est le 14 octobre. Contre la réserve de Montpellier.
Ok, on y sera. Là, l'équipe 2, ça va pas. Hein. L'équipe 2, 3 points en 4 matchs. Non, 2 défaites en 2 matchs. 4-1 à Alès ce dimanche après-midi. Ouais. Un but de Barbu. 2 matchs, ouais, 2 défaites. C'est l'apprentissage, c'est ça ?
Oui. Hier, on est tombé contre une équipe aussi jeune que nous, voire presque plus jeune. Très joueuse, très athlétique. Qui a eu 2 occasions en première mi-temps et qui a su en mettre une, tandis que nous, on n'a pas réussi à spécialement les inquiéter. Et après, en deuxième mi-temps, paradoxalement, on était presque un peu mieux. Donc c'est vrai qu'à la lecture du score, ça fait un peu mal. Mais voilà, on prend des buts par manque d'attention, un petit peu des fautes bêtes que j'espère qu'on pourra éviter dans le futur. Mais c'est sûr qu'on est tombé, en tout cas, contre une bonne équipe d'Alès. Mais bon, voilà, il reste. Le championnat est encore long et dans 2 semaines, on essaiera de réagir à la maison en recevant Metz, qui connaît aussi un début de saison un peu compliqué avec un nul et une défaite et qui vient de changer d'entraîneur. Donc,
ok, bah écoute, c'est noté. La réserve, on vient de recevoir un message, Laurent.
Oui, la réserve du handball, juste pour revenir sur handball, qui a lourdement chuté à Aramon pour son premier match en excellence. 37-24, voilà, c'est dommage, il va falloir se reprendre à domicile le prochain match.
Ok, et les
merci
féminines.
Merci à Flo pour l'info.
Les féminines qu'on a reçues l'an dernier, on les suit, hein, elles le savent. L'entente féminine Cœur de Lozère FL ASB qui gagne 6-1 sur le terrain de Chusclan, doublé de Chastel, but de Chaz, Cuminal, Tabar et Beaufils. Bravo aux filles sur ce championnat.
Elle joue dimanche. Si vous voulez aller
ah,
jouer,
voilà, ça c'est bien.
Elle joue au Cos Doge.
À quelle heure?
À 15h dimanche.
Ah, je travaille. Tu peux là.
Moi j'ai monté déjà la berce.
Une entente de vers Nîmes, là, Saint-Brest, quelque chose comme ça. Donc 15h au Cos Doge.
D'accord, mais Aurélien va y aller pour l'instant sport. Régional 2 samedi soir à Saint-Chély-d'Apché, le NL perd contre Beaumont 2-0. Le Buisson en division 2 fait match nul contre Saint-Hilaire à la JAS 3-0 partout, doublé de Pascal et but de Lacan. En Régional 3 Auvergne, Langogne gagne à Murat 1-0, un but de Julien Malaval. Enfin, le relevé championnat de départemental 3 avec les résultats. Aurélien, dis-nous.
Alors, les résultats, Marvejol qui a gagné à domicile contre Nord-Lozère 4-2. Ensuite, Badarou qui s'impose aussi à domicile contre le Chastel 3-1. Vaillant-Tomonaise contre Mende 1-3, donc Mende est allé gagner à l'extérieur. Le Buisson qui gagne 3-1 contre le Massegros. Sud-Lozère qui va gagner à Chirac 2-0. Match nul 0-0 entre Montrodat et Saint-Georges. Et enfin, victoire du Val-d'Aunès à domicile 3-1 contre Margeride.
Voilà, et un regroupement en tête avec Badarou, Sud-Lozère, Marvejol, Le Buisson qui ont 8 points et qui sont suivis de Mende, Val-d'Aunès à 6 points. Voilà, on va donner les résultats à chaque fois de ce championnat, hein, parce qu'on l'aime bien.
Il est bien sûr.
Bah ouais. Il est très bien, hein, ouais. L'info de cette émission, le basket, ça y est, c'est bon pour le basket Cosmandois. Avec un premier match ce week-end, la validation dans ce championnat Aveyron.
C'est ça, championnat départemental Aveyron, donc qu'on intègre dès cette saison. Donc le premier match va se jouer à l'extérieur vendredi soir.
D'accord. Voilà,
du côté de Capdenac, à la limite. Alors c'est une entente Capdenac et Figeac dans le Lot. Donc c'est premier gros déplacement. Voilà, 2h30 de route.
Il faut préciser que tu vas entraîner cette équipe la semaine, Aurélien.
Voilà, seulement la semaine, parce que moi, les week-ends, je ne peux pas jouer, donc forcément, je ne peux pas non plus me déplacer avec l'équipe. Donc, comme
c'est pas forcément ça, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une évidence.
C'est
pas ça, la raison.
Si, je ne peux pas me déplacer les week-ends.
Tu ne peux pas se déplacer.
Ah, oui, ouais. Je ne peux pas y aller.
Il n'y a pas le droit.
Donc, Donc voilà, donc je fais les entraînements la semaine, voilà, pour pas qu'ils se retrouvent sans entraînement spécifique ou un peu réfléchi. Voilà, c'est moi qui vais m'occuper de leur faire faire quelques exercices.
Et un match, c'est de l'autogestion.
Et un match, c'est de l'autogestion, voilà.
Tu as commencé ? Non, tu as pas commencé encore. C'est cette semaine que ça démarre pour toi.
On a commencé, si, la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé les entraînements. Donc voilà, on va attaquer le premier match avec 3 entraînements dans les pattes seulement. Donc j'espère que ça va aller.
Ouais, dis-nous alors, t'as un bon effectif ?
Oui, j'ai un bon effectif, oui, puisqu'on retrouve pas mal de joueurs qui étaient là il y a 2 ans quand on faisait le championnat régional. Donc, et puis quelques personnes aussi, quelques petits jeunes qu'on essaie d'intégrer à l'équipe, des personnes qui étaient en loisir l'an dernier qui veulent s'essayer aussi au championnat départemental. Donc ça fait un bon mix qui peut être intéressant.
Et les matchs à domicile se joueront dans quel gymnase alors, du coup ?
Les matchs à domicile seront donc le vendredi soir au gymnase du lycée Chaptal.
Ok, d'accord. Bon, mais très bien. Vous revenez à Chaptal.
Voilà, c'est ça.
Et le vendredi ?
Et le vendredi. Voilà, donc on sera la seule offre sportive le vendredi soir. Donc vous pourrez venir nous voir.
Mmh. Eh bien, on viendra.
Oui.
Hein, Laurent ?
Bien sûr.
On aime beaucoup regarder le basket à Mende. Il y a toujours du spectacle.
C'est ça.
Allez, on revient sur la page internationale. Tout d'abord, les pronostics de la semaine dernière. On va réécouter la bande. Celtic Glasgow contre le Paris Saint-Germain et mercredi Leipzig contre Monaco. Est-ce que Monaco va réussir à se remettre de cette claque donnée par Nice ? Est-ce que Paris va continuer à enfiler les buts ? Moi, j'ai les pronostics aussi de Laurent, qui on s'est vu ce matin par téléphone. Leipzig-Monaco. On va changer de sens, on va laisser Laurent dire en premier. Oui, je suis Laurent. Un partout, Leipzig-Monaco. Et voilà, il est là, le champion de cette année. Il a doublé, il a triplé son score par rapport à l'an dernier. Ouais. Et il est en tête, sachant qu'en plus, on n'aura pas de pronostic pour la semaine prochaine. Donc déjà, pour les deux prochaines semaines,
15 jours en tête.
Tu es en tête, ouais.
Il attaque fort, hein. Je crois qu'il a été un peu vexé de son zéro pointé de la saison dernière.
En question,
voilà, c'est ça.
C'est ça les sportifs, tu te remets en question.
Exactement.
Mmh. Donc on verra dans 2 semaines.
Grosse préparation cet été, je pense, sur les pronos. Il a bien étudié les équipes.
C'est ça, ouais. Les calendriers, tout.
Ouais.
Il a tout calculé. Mais c'est bien, ça va donner du piquant. Donc comme ça, on changera l'affiche, on fera une remise d'honneur lundi prochain à Patrick en bonne et due forme, avec peut-être une coupe, et on changera l'affiche, comme ça il repartira avec celle-là, qui n'est plus d'actualité. Allez, l'équipe de France de tennis est en finale contre la Belgique de la Coupe Davis fin novembre. Vous avez vu des matchs, vous avez suivi un peu ou pas du tout, Laurent ? Ouais.
Ouais, j'ai regardé hier la fin du match
de Tsonga.
De Tsonga. Et bon, il a complètement écrasé notre ami serbe, Lajovic. Je ne connaissais pas, mais il a... Ouais, très bien, il y a une bonne osmose avec le public, dans l'équipe aussi. Bah, peut-être que cette année, ça sera la bonne pour l'équipe de France.
Oui, ils avaient l'air de faire un peu la gueule quand même entre Noah. Noah, il n'avait pas l'air de péter la forme, Noah.
Oh, mais Noah, c'est capitaine. Parce qu'il avait trop... picolé, je sais pas. Non, il était.
Non, mais il a rien gagné, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein,
il a raison. Ils sont juste en finale, mais si, il était content. Et donc, peut-être cette année, contre la Belgique, ça va le faire.
Ils ont qui, la Belgique, comme joueur ? Moi, je suis pas trop le tennis, donc.
David Goffin, notamment.
Goffin ? Ouais. Je connais pas.
Poulvord,
Hazard.
Après, sur l'équipe de France, ils ont quand même éliminé la Serbie sans Djokovic. Donc,
ouais.
Je pense qu'il faut avoir le succès modeste.
Oui, c'est vrai. Mais justement, on va parler de Serbie qui a perdu contre la Slovénie en championnat d'Europe de basket en finale à Istanbul.
Julien, il est comme ça. Quand on gagne, c'est parce que l'adversaire est nul. On en parlait avant l'émission.
Pas du tout.
Et quand on perd, c'est notre faute.
Non, mais il a raison. C'est pas la même équipe avec Djokovic ou pas.
Écoute, nous, on n'avait pas gagné mon fils, que je sache.
Oui.
Eh oui.
Tu es en train de nous comparer mon fils à Djokovic.
Non, c'est très bien d'avoir éliminé la Serbie, mais il me semble que quand on affronte la Serbie avec Djokovic, il gagne en double et il gagne ses 2 simples.
Ouais. Tu as déjà 3 points de moins, donc après tu passes pas.
Comme ça va en 3.
Ouais, et comme ça en 3, t'es mal. C'est fichu. Le basket, on parlait d'un renouvellement de génération. On allait se demander quelle allait être la nouvelle génération, ou slovène ou serbe. Et c'est les Slovènes, mais c'est pas la nouvelle génération, car c'est un énorme Goran Dragic, le meneur de 31 ans du Miami Heat, qui a marqué 35 points, dont 26 lors de la première mi-temps. Match énorme, Aurélien.
Ouais, très beau match, très bien le final. Surtout, tu parlais de Goran Dragic, 31 ans, qui avait annoncé en plus que c'était sa dernière compétition avec l'équipe nationale. Donc on peut dire qu'il part sur une très bonne note. Il fait un match énorme, il porte l'équipe de bout en bout. Et donc voilà, il part avec une médaille d'or au Tour du Coup, ce qui est quand même assez exceptionnel, et pour la Slovénie qui est quand même un petit pays.
2 millions d'habitants.
2 millions d'habitants, donc ils sont champions d'Europe, vraiment un chapeau. Ouais. Et qui était dans notre groupe, rappelez-vous, qui était dans le groupe de l'équipe de France, et qui nous avait...
J'aime bien le rappelez-vous, parce qu'on dirait que ça fait 6 mois qu'on s'est fait éliminer.
C'est ça, en fait. C'est ça. On s'était fait laminer, et on voit que cette équipe est allée au bout, que c'était pas juste une erreur.
Ils ont éliminé l'Espagne aussi, la Slovénie, la France, l'Espagne, la Serbie, donc... Rien à dire. Le match en Ligue 1 de ce week-end, c'est bien sûr 3 qui recevait Montpellier avec cette formidable victoire, un but à 0. Donc je ne sais pas si vous avez vu le match.
Non.
J'imagine que oui. Non, vous avez...
On était au Wand.
Ah oui, vous étiez au Wand. Oh là, quel manque de chance. Tu as peut-être vu Rennes-Nice alors qu'il était à 17h.
J'en ai pris 4 à l'aise.
Ah oui, c'est vrai. Parfait. Bon, mais tu as peut-être vu Paris qui a gagné 2-0 ouais. contre Lyon. Ouais.
Avec 2 buteurs lyonnais à noter.
Ouais, j'ai pas vu le match. Je me suis couché assez tôt hier.
Marcelo contre leur camp.
Mmh. Ah ouais. Et moi j'ai regardé Marseille à Amiens et victoire 2-0, mais bon, il faut pas s'enflammer là non plus. C'était pas beau à voir.
Bah, finalement, tu vois que ce début de saison où ils se prennent que des tôles, ils sont 6e à 3 points du 3e. Hein. C'est pas lâché, ils sont pas lâchés.
3e
hein.
place, on s'en fout quoi.
Le titre.
Ouais, mais je pense que les deux premières ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
Ouais, ouais.
Peut-être même les 5 premières, je pense.
Peut-être même les 5 premières.
Qu'on a, Lyon est meilleur que nous, il n'y a pas de souci. Bordeaux, s'ils arrivent à conserver leur super attaquant qui devait signer à Marseille et qui n'est pas venu, ben voilà.
Malcolm, sacré joueur. Sacré
et Saint-Étienne qui finalement, Saint-Étienne qui.
Ouais, c'est étonnant, Saint-Étienne.
Qui gaze bien alors que, a priori, ils jouent pas. Non. Ils font pas un super football depuis le début de la saison. Mais,
ils peuvent dire merci à Ruffier ce week-end.
Grand Ruffier, ouais.
La sortie de 7-8 parades décisives et puis.
Mais ils sont là.
Ouais.
C'est bien.
Un peu là. La patte d'Oscar Garcia. Ceci dit, pour revenir sur Nice, j'ai vu quand même des larges résumés.
Ah.
C'est quand même.
Tu me rassures.
Ouais, quand même. C'est une bonne victoire. Tout le monde a
un très joli but de Balotelli.
Ouais, tout le monde a critiqué Balotelli tout le match et puis bon, à la 80e, il a fait du Balotelli, quoi, un éclair de génie et tu pars de Rennes avec 3 points. Je pense qu'il y aura pas beaucoup d'équipes qui seront capables d'aller gagner.
À Rennes, très grosse équipe cette année. Ils sont venus gagner à Marseille 3-1.
Ah ouais, c'est vrai, ils ont éclaté Marseille le week-end d'avant. T'as raison.
Ouais, c'est une bonne chose. Là, je parle pas de la faiblesse de l'adversaire.
Ouais. C'est vrai. Tu vois, ouais, comme quoi. Bon, c'est bien Dembélé, le joueur le plus cher de Barcelone. Dembélé, 140 millions, il arrive et il joue pas pendant 4 mois. Ouais, blessure aux ischio.
Ouais, c'est rigolo parce que.
Il
a séché l'entraînement du Dortmund pour aller à Barcelone et il se blesse parce qu'il y a un manque d'entraînement.
Ah, ça, c'est une belle morale.
Justice, ouais. C'est le retour du karma. Donc Laurent, ne t'arrête pas trop rapidement, l'équipe 3 aura peut-être besoin de toi.
Sûrement.
Non, mais il a continué, même ses vacances, il allait courir sur les crêtes corses. Et ouais. Ok, sinon au niveau de l'actualité internationale, j'ai rien d'autre qui me vient en tête, vous voulez revenir
sur
quelque chose ?
Le rugby, la belle performance de Montpellier contre Toulon, qui a gagné, qui est solide premier du top 14.
Oui.
Tu t'en fous ?
Non, qui est très bien parti pour être champion.
Et qui, pour une fois, ça produit. Il y a du beau jeu, moi. Comparé à l'an dernier, c'est vrai que la patte Van Cotter est très appréciable pour le public.
Clairement aussi, non ? Quand même, Mika Mobi, non ?
Oui, oui, oui.
Ouais. Ah, on aurait pu parler de la Nouvelle-Zélande, hein, qui ont mis combien ?
57-0.
À qui ?
À
l'Afrique du Sud.
Celle-là, elle fait mal.
Ouais, ça fait mal, hein, 57-0.
La même Nouvelle-Zélande qui vient faire 2 test matchs contre l'équipe de France au mois de novembre.
Ouh là là.
Et bien sûr, Bernard Laporte a déclaré qu'il fallait gagner les matchs contre la Nouvelle-Zélande, donc ce qui va être chose aisée.
Il a déclaré sur un terrain, c'est pour gagner. Hein, de toute façon.
Il a déclaré avant ou après l'Afrique du Sud ?
Avant.
Bon, il va peut-être revoir les propos.
Tu peux rentrer pour ne pas perdre aussi. Hein.
Oui, oui.
CF Amiens-Marseille.
Les matchs nus, il n'y a pas souvent.
C'est vrai, ça peut arriver, hein, ça arrive. Ouais.
Non, mais là, ça n'arrivera pas.
Non, là, ça n'arrivera pas. On est d'accord. Ok, les gars, allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Il faut les battre en Coupe du Monde. Match amical, ça, c'est bon.
Il faut les battre tout le temps, Laurent. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner.
C'est pas pareil.
Allez, la semaine prochaine, on retrouve du karaté dans cette émission. Et dans 2 semaines, on va un peu.
Ça va fighter là.
Ça va fighter la semaine prochaine. Ça va être énorme. Et dans 2 semaines, donc, on va essayer d'avoir tous les capitaines des équipes sportives mondoises. Donc, capitaine du basket qui vient d'arriver. On ne sait pas encore qui c'est, mais c'est Aurélien qui va choisir, vu que c'est lui qui entraîne.
Tout à fait.
Donc, il va nous trouver quelqu'un de bien.
Après l'entraînement
sûr,
de ce soir, je vais regarder l'entraînement. S'il m'écoute, voilà.
Ouais.
Après l'entraînement de ce soir, je vais choisir mon capitaine. Donc,
ça veut dire celui qui amène le plus de pour de vin, quoi.
Pas du tout.
Non, ça marche
pas du tout. Non.
Tu vas avoir un sacré goûter là.
Ouais, il va voilà, et bien sûr, les joueurs du MGC, de l'AFL, du MVL. du basket et du RCML. Je vais appeler Loïs là pour savoir qui est le capitaine cette année dans cette équipe. Et ça sera le 2 octobre. Allez, merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao.
Au revoir.
C'est Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Vous t'as dit apéro ?
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde.